Alors voilà, pour le message de ce matin, en fait j'ai été interpellé tout simplement en donnant l'école du dimanche sur un texte qui se trouve dans Luc 22, et je me suis dit, mais tiens, il y a peut-être aussi quelque chose pour les adultes dans ce passage. Dans 2 semaines, ce sera aussi moi qui vais prêcher, et je vais faire un message en deux épisodes. Alors Luc 22... Les versets 7 à 23, Luc 22, 7 à 23. Et c'est un texte en fait qui nous parle du dernier repas de Jésus-Christ avec ses disciples. Luc 22, verset 7. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. » Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Nous sommes dans un moment charnière ici dans le récit des évangiles, car en effet c'est le dernier repas que Jésus va prendre avec ses disciples. C'est un aboutissement d'un côté parce que voilà un peu plus de 3 ans que Jésus a pris le temps pour former ses disciples avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de présence, avec beaucoup d'enseignement. Et donc c'est un peu comme un repas de fin d'année hein, dans une entreprise où on fait un repas de fin d'année pour remercier les ouvriers, pour remercier les personnes qui se sont impliquées dans l'entreprise. C'était un peu comme un repas de fin d'année pour une partie, mais en même temps c'était aussi un repas d'adieu, parce que Jésus sait ce qu'il attend pour la suite des événements, et puis c'est un repas d'adieu aussi parce qu'il sait que par la suite ses disciples vont devoir apprendre à voler de leurs propres ailes. Je relis le verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » On voit dans ce passage qu'il y a cette tension entre la joie du travail accompli et les souffrances aussi à venir. Mais nous savons que ces souffrances seront leur récompense, car par l'accomplissement de la croix, le salut allait s'ouvrir à toutes les nations de la terre. Nous aussi, parfois, on a la joie d'avoir un travail qui est accompli, d'avoir des études qui sont terminées. Dieu nous a créés pour qu'on puisse avoir des activités, et non seulement des activités, mais aussi entrer dans les œuvres que le Père a préparées d'avance. Et lorsqu'on finit une formation, lorsqu'on finit l'école, des études, on peut aussi ressentir cet état un peu d'épanouissement pour un parcours réussi avec succès. Mais avoir un diplôme dans la poche, ça ne veut pas dire que c'est la fin des difficultés. Parce que si un titre nous qualifie pour une nouvelle fonction, cette fonction, elle va aussi nous donner plus de responsabilités. On va devoir aussi porter des charges. On aura un travail qui ne sera pas toujours tout facile. Et ce qui est vrai sur le plan, entre guillemets, matériel, l'est aussi sur le plan spirituel. Parce que ce repas, c'est vraiment un moment charnière. Il y a quelque chose de nouveau qui va suivre pour la vie des disciples. Il y aura aussi des nouvelles responsabilités, mais il y aura aussi des nouvelles souffrances liées à leur ministère. J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Jésus avait vu tout le parcours que ses disciples avaient accompli avec lui durant ces un peu plus de 3 ans. Mais la formation était loin d'être finie. Vous connaissez un petit peu la suite. Ensuite, ils vont aller sur la montagne des Oliviers. Et puis là, Jésus va demander d'intercéder. Et puis les disciples, ils vont faire quoi? Alors, ils vont s'endormir. Les bons intercesseurs dans le sommeil, dans la paix, dans le repos. Et puis ensuite, on sait que Judas avait déjà trahi son maître et ses amis. Et on sait aussi que par la suite, tous allaient abandonner le Seigneur, même Pierre le plus téméraire. Donc c'était un repas fort en émotion. Et la nuit avant la crucifixion, a été une nuit forte. Jésus, en priant dans le jardin de Gethsémané, il a même transpiré des gouttes de sang. Et c'est pas un hasard si Jésus a pris ce dernier repas avec ses disciples au moment de la Pâque. La Pâque, quelle est la signification de cette fête? En fait, pour comprendre ça, parce que la Pâque, c'était aussi un repas dans la tradition juive, c'était un repas qui rappelait quoi? En fait, la délivrance du peuple d'Israël du pays de l'Égypte. Pâques, en hébreu, se dit Pekar. Et ce mot Pekar vient en fait d'un verbe hébreu, l'origine de ce mot Pekar vient d'un mot hébreu qui se dit simplement Pakar. Pekar, c'est le mot, Pakar, c'est le verbe. Et ce verbe Pakar veut dire passer par-dessus, passer outre, épargner. Passer par-dessus, passer outre, épargner. Et on va lire quelques bribes de cette Pâque, de cet événement de la sortie d'Égypte qui se trouve en Exode 12, pour comprendre la signification de ce mot Pâque, de ce verbe Pakar. Alors, Deutéronome 12, je vous rappelle juste un petit peu le contexte parce qu'on ne va pas lire tout le chapitre là. Donc chaque famille ici devait préparer un agneau en vue d'une fête. Et on devait prendre un agneau sans défaut, le rôtir au feu, mais le rôtir en entier, et puis le manger aussi complètement. Et puis s'il y avait des restes, il fallait laisser cela dans le feu. Cela signifiait à l'avance que Jésus allait devoir payer le prix complet de sa vie à la croix, que son sacrifice serait parfait, comme il fallait choisir un agneau sans défaut, pour le salut, que son sacrifice serait parfait pour le salut de l'humanité. Mais avant de retirer la viande, il fallait égorger l'agneau. Et qu'ont dû faire les Israélites avec le sang? Alors le verset 7 nous donne une indication. Exode 12, je suis en Deutéronome. Exode 12, le verset 7, Une fois que l'agneau avait été égorgé, on prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Hein? On devait prendre le sang et on devait badigeonner les poteaux de la porte d'entrée de la maison, là où on faisait la fête, et le linteau. Pourquoi? Parce que durant cette nuit, il nous est indiqué au verset 12, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Donc ici, on retrouve notre fameux verbe « pakar ». « Je passerai par-dessus hein, » ou « je passerai outre » ou « je vous épargnerai ». Donc le mot « pak » vient de cet événement-là. Dieu amenait le jugement, c'était la dixième plaie sur le pays d'Égypte. Dieu amenait le jugement, mais là où était le sang de l'agneau, Dieu passait outre. Et la Pâque aujourd'hui, elle a la même signification. Le sang de Jésus-Christ, on mériterait tous le châtiment. Mais quand Dieu voit le sang de Jésus-Christ sur nos vies, alors le jugement tombe. Donc voilà simplement la signification de Pâque, c'est passer par-dessus. Hein. C'est Dieu qui passe par-dessus sa colère, par-dessus son jugement, et qui nous fait grâce à cause de nos bonnes œuvres, non, à cause du sang de Jésus-Christ. Il y a une autre signification aussi, un autre verset qui peut être intéressant pour nous ce matin, parce que au verset 11, il nous a dit « Quand vous le mangerez, donc hein, l'agneau, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. » C'est la Pâque de l'Éternel. Quand les gens faisaient, quand les gens ont dû faire ce repas, ils devaient être prêts au départ, parce qu'en effet, la délivrance est arrivée tout de suite. Quand les premiers-nés sont morts, même le pharaon a perdu son premier-né. Là, c'était vraiment le signal de départ. Le pharaon ne pouvait plus voir ses Israélites ici. Et il les a laissés partir au désert. Donc, ils devaient être prêts. Hein. Vos reins seront sains, vos souliers aux pieds, et même votre bâton à la main. On mangeait d'une main et de l'autre côté, il y avait déjà le bâton du pèlerin qui était prêt à se diriger en direction du Seigneur. Vous le mangerez à la hâte. Hein. C'était un repas. Ce repas-là était fait très rapidement. Le repas de la Pâque juive, par contre, alors je ne suis pas un grand connaisseur des traditions juives, mais après, du temps de Jésus, le repas de la Pâque, c'était quelque chose qui se faisait, on prenait le temps. Hein. Mais là, il fallait être prêt au départ. Et pour nous, ça a aussi une signification, avoir son bâton à la main. Ça veut dire qu'on n'est que des pèlerins, on n'est que des voyageurs, on n'est que des étrangers sur cette terre. Nous sommes que de passage. Nous devons avoir ce bâton à la main, nous rappeler que nous sommes ici, sur cette terre, pas pour chercher les biens de ce monde, mais pour chercher la cité à venir. Hébreux 11 nous rappelle ceci. Hébreux 11, au verset 13. Hébreux 11, au verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Ils ont vu les promesses, ils les ont saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. On n'est tous que des étrangers et des voyageurs sur cette terre. On doit tous avoir ce bâton à la main, se rappeler ce matin que pour bien accomplir ce voyage, il faut nous rappeler qu'on a un bâton à la main, qu'on est des pèlerins, qu'on est sur cette terre que de passage. Notre patrie n'est pas terrestre, elle est céleste. Et nous saluons de loin les promesses de Dieu et continuons notre marche. Amen. C'est facile à dire, mais à vivre, que tu vois les promesses de loin, tu les salues de loin. T'entends l'écho qui revient à toi. À bientôt. Des fois, c'est difficile. Surtout quand tu es dans le désert, puis qu'il n'y a peut-être même pas l'écho qui revient à toi. Tu vois les promesses au loin, et puis tu ne sais même pas si c'est un mirage. Est-ce que vraiment le Seigneur a dit? On peut passer par des temps comme ça, des fois, difficiles dans nos vies. Alors, si c'est beau à dire comme ça le dimanche matin devant vous, à vivre, des fois, ce n'est pas aussi évident. Saluer les promesses de loin, alors que nous marchons encore sur cette terre. On peut peut-être aspirer à rentrer plus rapidement dans les bénédictions de Dieu. Et même en tant que chrétien, il faut reconnaître qu'on est dans un monde de consommation, et ce monde de consommation a quand même un impact sur nos vies. Et des fois, on est aussi tenté par la consommation. Avoir plus, avoir meilleur. C'est vrai qu'on voit des fois, malheureusement, on est tenté aussi par les choses de ce monde. Et puis, on peut se rappeler à ce moment-là, par rapport à vouloir recevoir toujours plus, le texte du jeune homme riche. Il se trouve dans Marc. Il se trouve aussi dans les autres évangiles, mais là, on va prendre celui de Marc. Marc au chapitre 10. Marc 10. Je lis à partir du verset 21. C'est ce jeune homme riche qui vient vers Jésus et qui lui demande qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter de la vie éternelle. Et puis Jésus lui répond par rapport au commandement. Et puis le jeune homme va répondre au Seigneur, verset 20. Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Ici, on voit en fait quoi? Moi, j'interprète un peu comme ça. L'impossibilité du salut par nos œuvres. C'est impossible. C'est impossible. Ce jeune homme, il avait accompli la loi, mais il lui manquait une chose, c'est que l'argent avait pris le dessus dans son existence. Alors Jésus lui dit, mais pour aller au ciel, il te manque ça. Mais en fait, d'un point de vue humain, il va toujours nous manquer quelque chose. L'homme n'arrive pas par lui-même à accomplir complètement la loi. Et le jeune homme va s'en aller tout triste. Pourtant, quand Jésus l'avait vu venir à lui, quand il l'avait regardé, il a dit qu'il l'aima. Donc on ne peut pas dire que Dieu, que Jésus avait mis de côté cet homme. Non, il avait senti que dans cet homme, il y avait une démarche sincère. Mais essayer de se sauver par soi-même, par ses propres œuvres, c'est impossible. D'ailleurs, les disciples vont se questionner en voyant ce jeune homme partir, qui avait l'air certainement quelqu'un de très bien, de dire, mais qui alors peut être sauvé? Et Jésus de répondre, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est impossible aux hommes d'être sauvés par eux-mêmes. Et puis Pierre va dire, mais nous qui avons tout quitté, et Jésus de répondre, mais oui, vous qui avez tout quitté, je vous rendrai au centuple. Dans ce temps présent et dans le siècle à venir, dans ce temps présent, mais aussi avec des persécutions. Donc il y a une grande différence en fait entre ce jeune homme riche et les disciples. Quelle est cette grande différence? Parce que le jeune homme riche, il a rencontré simplement Jésus, mais il ne l'a pas connu véritablement, personnellement et de manière intime. Et c'est ce qui a fait la différence. Parce que ce jeune homme, il a juste croisé le chemin de Jésus, et quand Jésus a commencé à l'enseigner, là, face à ses incapacités, à ses impossibilités, il s'en est allé. Alors que simplement reconnaître qu'il ne pouvait pas par lui-même, et puis dire, mais Seigneur, viens à mon secours. Moi, ce que tu me demandes, c'est trop, je ne peux pas. S'il avait pu prendre du temps avec Jésus, rester à sa table, le suivre sur les chemins là où il allait pour annoncer l'Évangile, je pense que ce jeune homme aurait découvert véritablement ce qu'était l'Évangile. Parce que là, ce jeune homme n'a pas compris ce qu'était l'Évangile. Ce qui a fait la différence pour les disciples, c'est qu'ils ont pu saisir l'Évangile, ils ont pu être dans une relation intime avec le Seigneur et réaliser que par eux-mêmes, justement, le salut était complètement impossible. Donc on voit la bénédiction de Dieu à reposer sur les disciples alors que le jeune homme lui a quitté. La bénédiction de Dieu a reposé sur les disciples. Pourquoi? Parce que les disciples ont pris du temps avec le Seigneur. Et je pense que c'est la même chose pour nous. Aussi, quand nous passons des temps difficiles, quand nous traversons des situations douloureuses, si on prend du temps avec le Seigneur, si on revient vers Jésus, si on se rappelle la grandeur de son sacrifice, si on réalise la puissance et la sagesse de l'Évangile, alors on va traverser ce temps difficile, ce sacrifice peut-être que le Seigneur attend de nous d'une manière toute différente. Persévérons dans la prière afin de ne pas être tentés de retourner en arrière. Notre Dieu est fidèle. C'est pourquoi nous voulons continuer de mettre notre espérance en lui. Je trouve intéressant ce matin, moi j'écoutais un peu les chants qu'on a pris, les chants qui ont été choisis, c'était des chants qui rejoignaient pas mal le message. Seigneur, oui, que mon trésor soit pas l'argent ni l'or. Mon trésor, c'est toi, Seigneur. Je veux te servir, je désire te suivre. Je reviens à Luc 22, au verset 20. Luc 22, au verset 20. Et il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. C'était une nouvelle alliance que Jésus faisait avec ses disciples. Alliance dans son sang. Et une alliance dans le sang, il n'y a pas une alliance plus puissante que celle-ci, plus profonde que celle-ci. Et c'est le sang de Jésus-Christ qui nous qualifie et qui a qualifié les disciples pour la suite de leur ministère. Si nous voulons servir le Seigneur, il n'y a qu'une seule chose qui nous qualifie, c'est le sang de Jésus. Et même si certaines promesses, peut-être, on les salue de loin aujourd'hui dans notre vie, qu'importe. Ce qui importe, c'est le sang de Jésus-Christ sur nos vies, qui nous rend capables de rentrer dans son service, qui nous rend capables de faire avancer son royaume. Amen. Alors ce matin, saisissons une fois encore l'œuvre de la croix, car Jésus-Christ est notre Pâque. Il a été immolé pour nous, afin que nous puissions marcher et le servir en comptant sur son secours et son soutien dans nos vies. Dieu est fidèle et nous voulons encore attendre son intervention dans nos existences. Rapprochons-nous de lui. Que Dieu nous aide à avoir une relation intime avec lui. parce que ce sera là notre force, ce sera là notre réconfort, être proche de Dieu, revenir à la simplicité de l'Évangile et continuer notre marche avec le Seigneur. Amen. Alors dans 2 semaines, je continuerai sur ce thème-là, du dernier repas du Seigneur, et puis on abordera un petit peu les souffrances. On les aborde un tout petit peu, mais là on ira un peu plus en détail, parce que Jésus, il a dit, hein, je vous donnerai au centuple de ce que vous avez quitté. Quelle promesse merveilleuse. Dans présentement, aujourd'hui, je vous rendrai au centuple. C'est sa promesse. Il va nous bénir. Il va manifester sa grâce sur nous. Il va nous utiliser. Il va nous faire des, qu'on va pouvoir vivre des rencontres merveilleuses, qu'on va pouvoir annoncer sa croix encore là où nous serons. Et si Dieu a promis au centuple de ce qu'on doit des fois quitter, parce qu'il y a